102.3 RLP
Bazar.
Et vous,
vous. Bazar. Et vous.
Expert en rien, on s'intéresse à tout. Et vous.
Bonjour et bienvenue mes petits bonobos. Aujourd'hui est un jour un petit peu spécial, car suite aux nombreuses demandes, waouh, on commence à avoir beaucoup de notoriété, c'est vrai, nous avons décidé de donner la parole à deux auditeurs. Actuellement en ligne, on écoute le premier. Allô, allô Christian ?
Ouais, allô, ouais, on m'entend là ?
On vous entend parfaitement.
Okay. Bonjour Lisa. Bonjour à toute l'équipe du Bazar.
Salut.
Je suis vraiment fan de votre émission et j'adore quoi. Je me sens proche de vous et les sujets que vous abordez me parlent et me touchent notamment sur la séduction et la censure. Et j'appelle car je me suis inscrit sur Tinder et je crois avoir trouvé ma moitié.
Ah ben c'est vraiment super ça mon petit loup gourmand.
Oui, on a énormément de choses en commun, c'est vraiment fou quoi. Il est comme moi, il adore le badminton, faire du macramé. Mais bon, je t'avoue, Lisa, je stresse un peu car j'ai peur de pas être à la hauteur, quoi.
Oh ! Alors, première chose, mon petit poussin, tes peurs sont tout à fait légitimes. Il faut cependant que tu puisses dans cette force, tu vois, d'être toi-même. Mmh. C'est le plus beau cadeau que tu puisses lui offrir.
Ah, ok.
De suite, on écoute un deuxième auditeur.
Allô ?
Allô, Thibaut ?
C'est la voix de Lisa, ça ?
Oula, d'accord. Oui, ma petite chouquette ?
J'écoute vos émissions et j'ai entendu qu'elle vous parlait un peu et des addictions j'adore ça, quoi, tu vois, parle.
Oui. Je pense que nous avons tous bien compris.
Écoute-moi, alors du coup, moi je suis sur les applis, hein. Tu vois, s'il y a moyen et tout, du coup, elle a tout petit peu de chance. Et là, je suis tombé sur un petit gars, tu vois, il a l'air tout mignon, mais bon, c'est un peu un gars, il aurait fait du macramé, les badminton, les balades sur la plage, bon, moi, je vais être franc, je lui ai menti. Et j'ai dit que j'aimais ça, moi aussi, mais c'est quoi le macramé ? Parce que moi, ce que je veux, c'est du sexe.
Alors, déjà, merci Thibaut de nous partager cette petite intimité qui est la tienne. Ça demande beaucoup, beaucoup de courage et de vulnérabilité. Je pense que parfois, dans la vie, être soi-même, c'est pas forcément bon. Alors, ne sois pas trop toi-même, c'est le plus beau cadeau que tu puisses lui offrir.
Qu'est-ce que t'as dit ?
Merci à nos deux auditeurs d'avoir partagé un bout de leur intimité. Et nous, ça nous touche de pouvoir aider, rendre service, tout ça. Et bonjour à mes petits tamanoirs foufou, Tommy, Thomas, Tomala et Benja, Benji, Benja.
Waouh.
Moi je voulais changer un peu,
ouais, c'est beau,
je fais
moi, j'aime
une petite folie. Au sommaire les enfants, les premières fois à la rencontre, amour de jeunesse ou pas, je sais pas. Thomas nous replongera quelques années en arrière et nous nous envolerons ensuite dans l'univers de Benjamin qui éclairera peut-être notre lanterne sur la différence entre fantastique et science-fiction. Et je terminerai cette émission par le fameux micro-trottoir sur un sujet complexe. Turn it up, buddy, cause it's starting. Allez, montez le son, les enfants, parce que c'est parti.
Bazar.
On commence donc avec notre Thomas Koala et les premières fois. Et de suite, le jingle.
J'en ai un.
Tu en as un.
Le cul.
Nous sommes en cours d'éducation civique. Comme d'habitude, cela n'intéresse personne. Assis au fond de la classe, Thibaut regarde discrètement sur sa gauche. Elle est là, Farah, l'une des deux seules filles de la classe. Elle pianote sur son iPhone, pas le dernier, ni celui d'avant. De toute façon, elle n'a pas les moyens. Thibaut est au lycée, un lycée professionnel. Il apprend l'informatique. Il aime bien ça, le sagouin. Mais les cours ne sont pas toujours intéressants. Ce matin, comme beaucoup d'autres matins, c'est autre chose qui l'intéresse. Assis au fond de la classe, ses pensées divaguent. Il passe son temps à jeter des petits regards sur sa gauche. Il ne sait pas comment le formuler, mais il la trouve belle. Pas fraîche, belle. Même belle, c'est pas assez.
Pas fraîche.
Il ne s'en rend pas compte tout de suite, mais cela fait un moment que son regard est fixé sur elle. D'un coup, elle tourne la tête et croise son regard. Son cœur s'arrête, ses poumons se fichent. Le temps d'un instant qui dure une éternité, ils se regardent l'un dans l'autre. Tout en rabattant son regard sur son iPhone, qui n'est pas le dernier, je le rappelle, elle laisse apparaître un sourire timide sur sa joue. Que se passe-t-il ? La vision de Thibaut se trouble. Il a chaud.
Oh Thibaut, tu es avec nous, hein ? Tu pourrais me répéter ce que je viens de te dire, s'il te plaît ?
Dur rappel à la réalité. Le cours, les profs, l'éducation civique. Pourquoi mettre de l'éducation civique dans un lycée d'informatique ? Comme le lapin pris dans les phares, le regard de Thibaut bloque dans celui de Monsieur Quenouille. Un fou rire général fait office de bande sonore à cette joute oculaire. Les pensées fusent. Où suis-je ? Se demande Thibaut. Où est l'endroit mystérieux et merveilleux dans lequel j'étais il y a une fraction de seconde ? Que me veut ce pachyderme moustachu ? D'où proviennent tous ces cris de babouin ? Sans que sa conscience les ait validés, ses muscles se bandent et ses bras projettent la table à travers toute la classe. Dans un même élan, il se lève et quitte la classe. Simon, timide et réservé, au milieu de tout ce brouhaha, sanglote. Le pauvre n'a rien demandé et s'est pris la table à l'arrière du crâne. Il saigne, miskin. Mais la vie est ainsi. Tout le monde s'en fout de Simon. La journée passe, les sanctions tombent. 18h, fin des cours. Thibaut est devant le lycée, assis sur une barrière, la tête dans sa capuche. Ses amis autour de lui sont survoltés. Quel spectacle ! Quelle fulgurance ! À le tour de rôle, il ne cesse de lui demander, hilar, « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Thibaut reste muet. Il s'en fout. Peu importe les sanctions, peu importe les éloges. Sans un mot, il descend de sa barrière, enfonce ses mains dans ses poches et se met en route pour la maison. Il entend comme un appel. À travers la musique de ses écouteurs, il croit entendre son nom. Thibaut ? Il se retourne. Elle est là. Farah, à demi essoufflée. Il faut dire qu'il marche vite et cela fait un moment que sa musique l'appelle. Il se fige, la regarde 2 secondes, puis baisse aussi vite les yeux que ses joues deviennent rouges. Pouf, on va. Tout aussi timide, mais un tantinet plus courageuse, quoique peut-être encouragée par sa copine de l'autre côté de la rue, très peu discrète, elle lui dit « Moi, je sais ce qui s'est passé. »« Ah ouais ?» lui répond Thibaut, ayant réussi à lever ses yeux sur elle une demi-seconde. Pouf, on va. À ce moment-là, plus rien ne fonctionne chez Thibaut. Aucune pensée n'est cohérente, aucune action n'est possible, aucun mot ne peut sortir. Il aime être ici, là, devant elle, autant qu'il voudrait être mort. Il tremble de la tête aux pieds. Ses mains, moites, transforment les poches de sa veste en muqueuses. Un chronomètre d'une précision atomique tourne actuellement dans sa tête. Chaque nanoseconde qui passe alimente le malaise de son silence. Il aime être ici, mais voudrait être mort. C'est alors, lorsque tout semble perdu, il sent une main étrangère pénétrer la muqueuse de sa veste et venir saisir la sienne. Tout s'arrête. Le cœur, les poumons, les pensées. Il relève la tête, la regarde droit dans les yeux. Tous deux pleurent sans pleurer et se prennent dans les bras. Pou, pou, pou ! Mais quelle histoire ! Et moi, wow.
Franchement, tu m'as touché. Hein. J'étais à fond dedans, je n'ose même plus parler. Je transpire.
Comme Thibaut, j'ai les mains moites. Ouais, j'ai les bonnes muqueuses dans les poches. Ouais.
Comme vous l'aurez deviné dans cette histoire, derrière Thibaut se cache Benjamin. Eh ouais, faut pas me raconter ta vie.
Il a pas l'air de s'être reconnu.
Ouais, vraiment.
Les premières fois, c'est de ça qu'on va parler tout de suite. Non pas forcément de la première fois, mais des premières fois. Les premières fois. Premier baiser, premier copain, première gâterie, que ne sais-je. C'est dingo quand même ce qui se passe dans ces moments-là. Hein? Parce que nous, aujourd'hui, avec Tinder et nos 30 ans, on se rencontre et on s'adonne à la sodomie sans même s'être fait la bise.
Mais pourquoi ils font ça?
Je ne sais pas.
La grotte sacrée.
Alors qu'à une époque, rappelez-vous, vous ressentiez plus d'émotion à tenir la main d'une fille qu'à lui tondre le gazon. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? La vie, l'expérience, les déceptions, Gérald Darmanin, oui, il y a de tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nostalgie, peut-être mélancolie, je voudrais que l'on se replonge dans cette époque, celle des premières fois. Benjamin, Lisa, un homme, une femme, j'aimerais que vous me racontiez une première fois. Pas la première fois, pitié. Premier bisou, premier je te tiens la main, premier amour, sans jamais lui avouer, c'est le moment. Et comme je suis gentil, je vais commencer et je vais vous raconter une première fois, selon mes critères de première fois. Je vais raconter la première fois que j'ai, on va dire, dormi avec une fille. Alors 15 ans, un truc comme ça. Et on était chez moi, donc chez mon père, dans l'appartement qu'on avait, et il y avait personne. Je parle, mon père était pas là, il y avait juste moi, elle et un pote, je crois. Et je sais plus du tout comment ça s'est passé la soirée. Genre une soirée de 15 ans, je sais pas, on a appelé des esprits, enfin des trucs de merde quoi, je sais plus ce qu'on a fait. Et je ne sais même pas comment c'est arrivé, on s'est retrouvé à dormir sur le canapé du salon. Genre là, là, chez mon père, il y a trois chambres, hein. Il y a ma chambre avec un lit, je te jure c'est vrai. Il y a sa chambre avec un lit, je te jure c'est vrai. Il y a la chambre de mon frère avec un lit. Comment on s'est retrouvé à dormir sur le canapé? Je sais pas. Sur un canapé où t'as genre, t'as 30 cm de banquette, tu vois, les petits canapés. Et on était là comme ça, et puis on commence à s'endormir. Et j'ai passé toute la nuit, toute la nuit. La nuit, c'est long, hein. Toute la nuit, chaque putain de minute, j'étais comme as, et je la regardais comme ça, et il y avait genre, il y avait sa bouche, son nez, qui était vraiment à 2 cm, et je passais toute la nuit à la regarder comme ça.
Détail. Plus de la gueule.
Mec, tétalisé. mec, elle aurait pu sentir n'importe quoi, non, j'étais tétalisé. Et c'était rigolo, parce que, du coup, elle était là, genre en mode petite culotte, petit sous-vêtement, enfin, tu vois, et puis franchement, c'était vraiment la meuf que je kiffais du collège. Mais j'étais là, j'avais les bras raides. Peut-être de temps en temps, elle bouge, genre elle met son bras sur toi et tout. Moi, j'étais cramasse, tétanisé. Et c'est ces premières fois-là qui sont rigolotes, quoi. C'est que c'est ces premiers trucs où aujourd'hui, c'est anodin, totalement anodin, mais à une époque.
Ok. Ta première vraie sieste, quoi.
et toi, Benjamin?
Allez.
Une première fois.
Benjamin, une petite première fois.
T'es relou avec tes questions, toi aussi.
Ah, c'est relou, hein, c'est relou.
Comme ça, là, quand il me prend au piège,
le gars.
Ah ouais, non, bah, je suis là, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça.
Non, mais je sais pas, la première fois que je suis sorti avec une fille, c'était en seconde. La seconde. Donc, j'avais 16 ans. Et un peu comme toi, quoi. C'était la fille que je trouvais trop belle, trop intelligente, trop intéressante, trop drôle, machin, parfaite, quoi. Et c'est sur elle que j'avais un peu... J'ai perdu mes mots. Tu vois, ouais, et merci. Phase. Tu vois, je suis encore dans le champ.
Ça rappelle des souvenirs. Hein.
Ouais, c'est ça. Et on se tournait un peu autour, mais bon, t'es un peu plus pote qu'autre chose, quoi. Bon, moi, clairement, je voulais un peu plus, quoi. Et c'est seulement en fin d'année, parce qu'on prenait le même train pour rentrer chez nous, que voilà, dans le train, on a commencé à voilà, se rapprocher un peu, puis doucement, elle s'est approchée de moi, je me suis approché d'elle, on s'embrassait, c'était incroyable. Je suis rentré chez moi sur un petit nuage. C'était beau. Et deux semaines après, elle me larguait.
oh baby tout. Intensité
ouais.
Courte.
Grand pic, durée. Puis grande descente.
Ah, ouais.
J'ai eu mon premier amour et mon premier chèque amoureux en très peu de temps. C'était assez intense. Ouais. C'était un sale été.
Et toi, Lisa?
Mais j'aurais beaucoup de premières fois à raconter, mais
tu as de l'expérience,
Lisa. Dans les Landes.
Je pense que je vais choisir le premier vrai petit bisou, mais petit bisou comme ça, un petit smack, quoi. Mais c'était les vacances. On était partis à plusieurs familles camper au bord d'un lac, quoi. Et à un moment donné, innocemment, je fais oh, tiens, moi je vais me balader dans la forêt. Il fait bon, mais je viens avec toi. Donc je fais genre moi j'y vais pour jouer et pour tuer des fougères, grimper aux arbres, tout ça. À un moment donné, on s'assoit au bord de l'eau et là je commence à raconter des petites blagues comme j'avais l'habitude de le faire, et là il commence à me faire des petits compliments du genre t'as un super sourire, t'as des trop beaux yeux, et moi je rigole, je fais t'es con. Genre je montre que ça ne m'atteint pas, enfin je voilà, je suis pas touchée par ce que tu dis. Puis là il fait j'ai envie de t'embrasser, je fais ok.
Très pragmatique.
Et là il s'approche et puis il me fait petit bisou comme ça sur la bouche, et j'étais contente, mais j'ai pas trop montré que j'étais contente parce que dans mon corps ça faisait peu d'artifice, quoi. Mais j'étais hyper fière de moi. Je me suis dit, putain, ça y est, tu passes un cap. T'as grandi.
Tu es une femme.
Et en même temps, fallait que je reste forte. Et tu...
Bah, merci à vous deux de vous confier. Ce radio RLP érotique.
En tout cas, c'était très très chouette, ouais. Comme petite chronique
intervention. Ouais.
Merci beaucoup, Thomas.
Ah, bah, de rien.
Thomas, Tommy, Thomas là. Ne serait-ce pas le moment de faire un break, une pause, un stop, un arrêt, sur un moment de poésie?
Bazar.
Bonjour. J'aimerais passer une annonce. Désolé de venir vous importuner ainsi dans votre radio. Moi, c'est Quentin, mais tu peux m'appeler Tintin. Voilà, je me dis, les gens, ils s'ennuient, ils savent pas quoi faire, tu rentres chez toi, t'as travaillé, t'es fatigué. Bon, t'as déjà tout vu, les séries, les Netflix, t'as déjà tout lu, tu connais les trucs par cœur, tu t'ennuies. Et là, bam, moi j'arrive, t'es chi de Quentin, te Tintin. Le film il est pas bien, te Tintin. Ta femme elle prend ta tête, te Tintin. Ton mec il fout rien chez toi, te Tintin. Mets-toi bien. Par contre, la deux weed wallet de lui, je te jure, c'est un enc***. Faut pas aller lui acheter, lui, ça.
Ça va,
attends,
non, mais
c'est
bon,
c'est lui qui fait ça.
Et on enchaîne avec une chronique. Que dis-je ? La chronique révélation, mes petits potes. Ah, si vous saviez depuis combien de temps je l'attends, je me sens fébrile. Benjamin, le micro est à toi.
Alors.
Tout de suite après le jingle. Attends le jingle.
J'attends.
Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ah, si.
Cinéma. Mash-up de la bouillie de cinéma.
Je trouve ça tout à fait bouleversifié.
Alors, Lisa.
Non, je sens que je vais être déçue.
Non, mais voilà, petit erratum, c'est pas exactement ça la chronique, c'était plus globalement sur le genre fantastique. Mais en effet, à la base, cette chronique, je l'ai faite parce que je voyais que bien que vous deux, mes deux petits comparses,
oui.
Vous avez du mal à faire le distinguo entre fantastique, science-fiction, fantasy, tout ça, tout ça.
Mm-hmm.
Du coup, je me suis dit, bon, allez, on va faire une petite chronique Wikipédia et revoir ensemble un peu ce que c'est que le fantastique. Mais avant ça, il faut que je vous parle de quelque chose.
Ma deuxième, première fois.
Putain. Alors, j'avoue, en ce moment, j'ai vraiment pas mal de... Enfin, j'en chie, quoi, pour dormir. J'ose pas trop vous en parler, parce que j'ai peur que vous me preniez un peu pour un fou. Non, ça a commencé il y a une semaine, où, comme d'hab, avant d'aller me coucher, je me sers un petit verre d'eau, je le pose à côté de mon lit, parce que rien d'anormal, parce que je suis une vieille personne. Dans la nuit, je me réveille, je bois mon verre, mais il est vide. Je me dis, ok, c'est chelou. Mais peut-être que, je sais pas, je l'ai bu ou j'ai oublié de le... Enfin bref, j'ai bugué, quoi. Le lendemain, plus ou moins la même chose, je me sers un verre d'eau, je le pose à côté de mon lit, et pareil, au réveil, le verre est vide, quoi. Et là, je commence à me dire, ok, y a un délire, quoi. Je commence un peu à flipper. Quelques jours après, j'étais posé chez moi, dans mon salon, quoi, en train de lire une petite bande dessinée. J'aime bien la bande dessinée. Et les fenêtres étaient fermées et tout. Enfin, il n'y a pas de courant d'air, enfin, je dis ça parce qu'en fait, j'ai vu littéralement... La page de la BD se soulevait tout seul et se tournait, quoi.
Bon, là, c'est moi qui commence.
Voilà, ben, je t'avais un peu prévenu, quoi. Donc là, je sens bien que, voilà, vous êtes un peu en train de me juger, là, je le vois dans vos regards. Et je vois que vous me prenez un peu pour un fou. Et c'est tout à fait normal, parce que ce que je viens de dire, c'est des gros mythos, évidemment. C'est plus ou moins le pitch du hors-là. Alors, le hors-là, c'est quoi ? Ça vous dit quelque chose, peut-être ?
Non.
Alors là...
Ah !
Hors-là-là.
J'ai déjà fait la blague avant, l'été.
Donc le hors-là, c'est quoi ? Le hors-là, c'est une nouvelle de Guy de Maupassant, publiée en 1887, qui raconte l'histoire d'un homme qui est persuadé d'être suivi par une créature invisible, le hors-là donc, qui lui aspire sa vie durant son sommeil, le faisant basculer dans la paranoïa et le doute permanent, à savoir, est-ce que cette créature existe vraiment ou pas ? Est-ce que je suis fou ? En tout cas, en littérature, c'est vraiment ça, c'est le fantastique, ça tient en une phrase, ça serait l'intrusion de quelque chose de surnaturel, d'irrationnel, dans le quotidien, dans le réel. Et c'est pour ça que le fantastique est un genre plutôt approprié pour parler de la folie, par exemple, ou de toutes sortes de pathologies mentales. Mm-hmm. Comme dans le film L'échelle de Jacob, où...
Oh là là.
Ah, toi-même tu sais.
Jacob Lady.
Carrément, L'échelle de Jacob, en gros, c'est donc un film où Tim Robbins interprète un vétéran du Vietnam qui était donc traumatisé par la guerre et par le décès de son fils. Et qui, de retour à la vie civile, se met à avoir des visions cauchemardesques et pense être la victime d'un vaste complot. Et ces visions vont s'immiscer peu à peu dans sa vie et vont gagner en intensité jusqu'au dernier plan du film où la vérité va nous être révélée. Et on retrouve le même type de structure dans le film L'Antre de la Folie de John Carpenter, où un détective est engagé par une grosse maison d'édition pour retrouver son auteur star qui est porté disparu. Et pour mener son enquête, le détective va lire les livres du dit auteur, qui sont des livres d'horreur et d'épouvante, similaires à ceux de Stephen King ou de Lovecraft, mais ces livres ont la réputation de rendre fous ceux qui les lisent. Et je trouve que ce film est intéressant, car en faisant ouvertement référence à des auteurs comme King ou Lovecraft, qui sont connus pour faire des histoires d'horreur, d'épouvante, et surtout des histoires fantastiques, il met le doigt sur le fait que le genre fantastique est souvent lié à quelque chose de plus général et universel que la folie, c'est la peur. Tout simplement. Parce qu'à bien y regarder, beaucoup de films d'horreur, et je vais pas tous les lister, il y en a énormément, genre, on va dire aussi Christine, The Ring, beaucoup de films d'horreur appartiennent aussi au genre fantastique. Et c'est normal, car l'une des choses qui provoque la peur chez nous, c'est l'inconnu. Ce qui se tapit dans l'obscurité, ce qui échappe à notre raison et nous laisse entrevoir le pire.
L'étranger, là.
Oui, il y a un peu de ça aussi.
Entre nous.
Ah ben.
Je suis en plein journée.
Les racistes vivent des films d'horreur permanents. Et c'est pour ça que la plupart des récits de Lovecraft traitent de l'indicible, où souvent les narrateurs sont dans l'incapacité de décrire avec des mots l'horreur du phénomène ou de la créature à laquelle ils font face. Cette peur de l'inconnu traduit souvent une peur de la mort, incarnée par exemple par des monstres comme Freddy Krueger, une version moderne du croque-mitaine, mais qui au lieu de se cacher sous un lit ou dans un placard, va s'immiscer dans les cauchemars d'adolescents pour les tuer de manière atroce. Mais au diable la mort et la folie, car le fantastique c'est aussi l'imaginaire, c'est s'évader d'une réalité qui parfois peut paraître un peu terne. C'est pourquoi les enfants sont souvent les héros d'histoires fantastiques. Comme dans le film Coraline, produit par le studio d'animation Laika, dont je vous recommande tous les films au passage, on y suit les péripéties d'une jeune fille qui aménage avec ses parents dans une nouvelle maison et qui vit assez mal ce changement. Et entrant dans cette maison, elle découvre une petite porte dissimulée derrière le papier peint, et au premier abord, cette porte paraît condamnée. Mais durant la nuit, Coraline va se rendre compte que cette porte mène vers une version alternative de sa maison où tous ses rêves se réalisent. Et on retrouve un peu le même procédé dans le film Le Labyrinthe de Pan, de Guillermo del Toro, que vous avez peut-être vu.
Le bonhomme avec les mains qui a les yeux dans les mains.
Exactement. Où là aussi, encore une fois, une jeune fille aménage dans une vieille maison perdue dans une forêt avec sa mère et son beau-père, qui est un espèce de militaire tyrannique, et en pleine guerre civile espagnole. Et cette fuite vers l'imaginaire leur permet ainsi de s'adapter à une nouvelle réalité, plus globale et plus violente, la réalité du monde des adultes, et de faire un peu le deuil d'une réalité passée, celle de leur enfance. En fait, le fantastique nous permet de parler de la réalité, mais d'une réalité intangible, celle du rêve, de la psyché, des émotions, tout ça, tout ça. Mais je vois que c'est encore un petit peu vague. Et du coup, je vous propose de vous faire un petit quiz. Ah oui, on aime ça les quiz. Afin de, voilà, je vais vous donner quelques films, quelques noms de films.
Ah, si je les connais.
Et les pitcher, évidemment, dire si c'est fantastique ou pas.
D'accord, ok.
Ok.
Harry Potter.
Pas fantastique. Fantasy, un truc comme ça.
Ouais, pas mal. Et toi, tu vois ?
Pas fantastique, fantasy.
Comment elle copie son petit camarade. Bon, on va pas pitcher Harry Potter, je pense que tout le monde l'a à peu près.
Fantasy.
Ouais. Non, c'est bon, ouais.
Bah, en vrai, oui, moi je dirais de la fantasy aussi, quoi. Même si, en gros, Harry Potter, au départ, le postulat, l'introduction, Harry, est... on vient le chercher pour l'amener...
Fantastique.
Voilà, au début, ce serait plus du fantastique. Il est dans un univers réel, concret, notre époque, une histoire un peu sordide, voilà, où il vit dans un placard chez son oncle et sa tante.
Moi, j'appelle ça un quotidien, monsieur, j'appelle ça un quotidien.
Mais jusqu'à ce moment-là, c'est du fantastique, et ensuite, on bascule dans la fantasy. Et la fantasy, pour rappel un peu, c'est assez proche du merveilleux. C'est-à-dire, c'est un monde peuplé de fées, d'ogres, de dragons, de magiciens, de choses comme ça. Bon, un autre, Le Seigneur des Anneaux.
Fantasy.
Héroïque fantasy, voilà. Ça je le connais.
Héroïque fantasy en plus, mais complètement. Ouais. Je sais plus lequel de vous deux, vous aviez dit Le Seigneur des Anneaux, oui c'est du fantastique. Bah, pas vraiment, non, c'est plus de la fantasy, et en particulier de l'héroïque fantasy qui a ses codes propres. Un autre, un peu plus tricky, que j'aime beaucoup, qui est celui-là pareil. C'est notre génération, c'est The Mask, avec Jim Carrey, qui est foufou, qui met un masque. Et qui
fantastique.
Moi je dirais pas fantastique.
Tu dirais quoi?
Je dirais un truc, j'aurais fantasy, un truc comme ça, ouais.
C'est dans, c'est dans sa vie.
Mais j'irais pas fantastique.
C'est dans la vie. Réel. En même temps, c'est surréaliste en même temps.
Ouais, mais genre c'est dans la vie réelle, mais tu vois, le paramètre qui change le petit quotidien, il est un peu abusé.
Alors, il est clairement exagéré, mais... le fantastique, c'est vrai que j'ai parlé pas mal de films un peu sombres et trucs comme ça, mais ça peut être très clairement de la comédie aussi, quoi. Et pour moi, ça serait plus du fantastique, parce que tu suis ce mec qui a un quotidien tout à fait banal, qui est pas très sûr de lui, et en même temps, il a ce côté un peu enfantin, il est fan de cartoon, tu sens qu'il a quelque chose en lui, et ce masque va révéler une facette, en tout cas, de sa personnalité, et la décupler, quoi. C'était... Chronique sur le fantastique.
C'était formidable. Je t'ai piégé.
Ça, il m'a eu par surprise.
Ouais, je sais. Ouais.
Benjamin, alias mon new god. J'ai pas des critères très élevés.
Ouais,
en tout cas, on sait un peu plus.
Ouais, chef d'œuvre. Mes petits chats. L'émission touche presque à sa fin, mais qui dit fin d'émission dit encore une chronique.
Oh oui alors.
Et tout de suite le jingle.
Ouais.
Micro. Trottoir. De Lily.
Vous posez la question, répondez.
Ouais, juste pour savoir, c'est ça, c'est quoi le sujet?
La paix qu'il nous faudrait.
J'ai le complexe du cornflakes. J'ai le complexe. J'ai le complexe du cornflakes.
Oui, je suis déjà fan.
J'ai le complexe. Aujourd'hui, dans cette chronique, nous allons aborder la question des complexes. Vous savez, ce petit sentiment pénible d'avoir l'impression que l'on est inférieur aux autres, d'avoir une carence dans l'estime de soi. Non, non, je sens que vous vous posez la question de savoir comment j'ai eu cette idée de sujet. Non, vous êtes trop curieux.
Comment t'as eu cette idée de sujet?
Mais vous êtes trop curieux. Eh bien, l'histoire commence il y a un an. Je me réveille un beau matin du mois de juin, fraîche et légère, comme j'avais l'habitude de le ressentir.
Menteuse.
Je m'approche de mon miroir afin de procéder à ma petite débarbouille quotidienne de visage, et là, que vois-je? Une espèce de petite boule blanche avait élu domicile sur la muqueuse du bas de mon œil au niveau des petits cils. Merde, c'est quoi ce truc?
Un chalazion.
Hein? Oui, un furoncle, un chalazion. Ouais. Les mois passent. Persuadée que cette petite boule de merde viendrait à disparaître toute seule, j'ai laissé le temps faire. Les mois continuent alors de passer et la boule reste, voire grossit. Nous sommes en mars 2023. Soit presque un an après l'arrivée de la petite boule. J'ai rendez-vous chez l'ophtalmo qui me dit que c'est trop tard, il aurait fallu venir avant, la petite boule elle va rester, et en plus de ça elle me prescrit des lunettes. Top ! Alors que ça faisait un an que je l'avais, que je m'étais habituée, elle est venue vraiment me complexer. Et dans ma tête c'est vraiment venu me bouffer, j'y pensais sans cesse alors que c'était quelque chose que les autres y voyaient pas forcément, mais c'est venu créer un complexe, et surtout c'est venu déformer la perception que j'avais de moi. Alors vous allez me dire
« Mais déjà, on s'en fout !»
Je sais, vous allez
Ah, on s'en fout !»« Ah, t'es magnifique comme ça !»
Et pourtant, c'est bien de là que me sont venues plusieurs questions. Pourquoi a-t-on des complexes ?
Bah oui, pourquoi ?
Et suis-je la seule à avoir des complexes ? Et c'est muni de ce petit complexe physique que je suis partie à la rencontre des habitants de Périgueux, qu'ils soient hommes, femmes, adolescents, pour les interroger sur leurs complexes. Ma quête débute dans un lycée auprès d'adolescents et d'adolescentes.
Qu'est-ce qui est un complexe pour toi, chez toi ?
Je dirais que j'ai pas forcément de complexe, étant un garçon, mais je pense que c'est bien de poser la question aux filles.
Cela voudrait dire que les adolescents auraient moins, voire pas de complexe, à l'inverse des adolescentes ? Si l'on creuse un peu, on se rend compte que beaucoup d'adolescents ont des complexes, mais qu'ils en parlent juste moins facilement, voire ils le cachent et ne veulent pas en parler devant leurs petits copains. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai voulu interviewer un adolescent, un garçon, il me demandait d'aller l'interviewer à l'écart, tout seul, sans que tous les autres entendent.
Alors pour moi, j'ai mon complexe, c'est un peu ma tête, je me trouve pas très beau.
Qu'en est-il chez les adolescentes ?
Moi je complexe beaucoup sur mon corps et parfois sur mon comportement. Enfin, genre sur ma mentalité et tout.
Ça peut être soit mon corps ou soit mentalement par rapport aux autres. C'est-à-dire que ça dépend. Si on me regarde mal, ben, j'ai complexé sur mon corps ou sur mes habits, comment je suis habillée.
Bah, moi, c'est qui m'a complexé, c'est mes cuisses. Mon Dieu, mes cuisses.
Qu'est-ce qu'elles ont, tes cuisses?
Mes cuisses, elles se touchent, voilà.
Mon ventre, mes cuisses, je me sens...
Et bah, tu saurais dire par rapport à quoi, en fait, pourquoi ça te complexe ?
Bah, les autres gens, les autres filles sur les réseaux ou dans la rue, elles sont trop belles. Et moi, à côté, je me sens inférieure.
On sent qu'à l'inverse des garçons, les adolescentes ont besoin d'en parler et même sont très contentes de pouvoir en parler et de pouvoir s'exprimer là-dessus. C'est vrai que le cas des réseaux sociaux, en particulier ceux centrés sur l'image comme Instagram, TikTok, YouTube, provoque chez les jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes, un sentiment de mal-être et l'impression de ne jamais correspondre aux standards de beauté, d'esthétique, entraînant une baisse de l'estime de soi. Séduisant, c'est ça, regarde. Le corps parfait, c'est ça, regarde. L'attitude parfaite, c'est ça, regarde. Oui, c'est clair. C'est ça, c'est la vie parfaite. Une nana hyper bien gaulée qui a eu 4 gamins qui te dit « Ah, moi, tous les matins, je fais 1 heure de yoga. » Oui, bien sûr. Attention, parce que je peux m'énerver. Hein. Ok. Mais quand on grandit, est-ce que nos complexes évoluent ? A-t-on moins de complexes ?
Qu'est-ce qui, chez vous, est un complexe ?
Mon nez. Quelque chose que je peux pas changer. Enfin, en tout cas, que j'ai pas envie de changer, sinon ça déforme complètement le visage. J'ai une bosse sur le nez.
On peut dire une coquetterie. Coquetterie au visage, quelque chose qui ne peut pas se cacher.
J'ai du gras dans le ventre, j'ai du gras dans les bras, et c'est vrai que ça c'est un peu un complexe. Je m'habille en fonction aussi, que c'est sûr. Mais c'est vrai que dès qu'il y a des hommes, je vais me sentir regardée. Et juger.
Bon, les complexes des femmes, si l'on s'en tient à ce que l'on vient d'entendre, sont centrés sur l'apparence. Ce sont des complexes d'ordre physique. Mais pourquoi autant de pression par rapport à notre apparence physique ? Cela me donne envie de citer Mona Chollet.
Sous le prétendu culte de la beauté prospère une haine de soi et de son corps, entretenue par le matraquage de normes inatteignables, un processus d'auto-dévalorisation qui alimente une anxiété constante au sujet du physique, en même temps qu'il condamne les femmes à ne pas savoir exister autrement que par la séduction, les enfermant dans un état de subordination permanente. À la société patriarcale. Et qu'en est-il des hommes ?
J'irais le complexe de supériorité. Je n'aime pas que les gens soient supérieurs à moi.
J'ai quand même souvent une appréhension à dire ce que je fais dans la vie, étant donné que ce que je fais dans la vie ne me valorise pas.
Et après, tu sais, quand vient la question aussi, t'es habité, ouais, je suis RSA. Ah. Ah ouais, bah là, d'un coup, le mec, il dit, ah ouais, t'as 37 ans, t'es en 3e année de fac et t'es RSA, quoi. Et j'avoue que c'est difficile de... à justifier. Tu sais, je me sens pas crédible, je me sens pas...
Moins centré sur l'apparence, les complexes des hommes sont plutôt d'ordre social, leur place dans la société, leur statut. Et ça amène même des complexes d'ordre sexuel.
Au niveau de mes capacités, j'ai pas forcément de maîtrise sur... sur mon sexe en érection, et souvent je déborde parce que je me mets à anticiper que je vais déborder, et donc ça arrive. Et ça, ça me bouffe un peu la vie aussi.
Bah ouais, il y a une pression à bander. Mais ce qui est marrant, alors pas à se taper des barres de rire, c'est que ce qui est ressorti du micro-trottoir, même si c'est un minime, très 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 minime échantillon de la population, eh ben c'est quand même représentatif des stéréotypes de genre. Il y a une pression exercée envers les femmes par rapport à leur physique, et l'on exige des hommes qu'ils aient une bonne condition sociale, il faut qu'ils assurent. Tout ce que j'expose ici, on l'a déjà entendu. Et ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que ça n'évolue pas. Ben, peut-être que ce qui évolue, c'est qu'on en parle plus, qu'on en a conscience, que maintenant, il y a des livres de développement personnel, body positive, tout ça, tout ça. Mais avant de déconstruire tout un processus de construction et de représentation, ben, il faudra me passer sur le corps. Non, blague, blague, blague. Non, mais il faut continuer à ouvrir les esprits, notamment ceux des jeunes. On est en bonne voie, mais la route reste très longue et le combat est déjà bien intense à mener. Alors franchement, 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 allégeons-nous de toutes ces petites choses qui nous tracassent, nos complexes. Aimons-les. Faisons d'eux notre singularité.
Bon, c'est bien, complexe, ça fait évoluer, ça renforce aussi.
Et comme dirait Christina Aguilera, dont je vais faire une wish imitation. I am beautiful, no matter what it takes. Words can bring me down. Oh, I am beautiful in every single way. Yes, words can bring me down.
Non, c'était bien, c'était bon.
Voilà, merci.
Applaudis, Thomas, mais c'est pas tout
ça. Ça me gênait, ça me gênait.
Tu chantes mieux qu'elle, et t'es plus belle qu'elle.
Oh, le...
Ça, c'est parce que personne ne me voit, et ils m'entendent juste. Donc voilà, petit complexe.
Et petit complexe. Oh,
bah, écoute.
Et voilà, mes petites truites fumées, on arrive à la fin, la vraie fin de notre émission.
Non.
Mais oui, mais vous avez l'air d'avoir passé un bon moment.
Ça va.
En tout cas, vous, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre délicieuse compagnie. Petit rappel pour vous, fidèles auditeurs, nous avons une petite page Facebook.
Oh.
N'hésitez pas à aller la liker, nous, ça nous fait toujours plaisir. Bazar, et vous? D'ici là, prenez soin de vous, soyez indulgents, apportez-vous douceur et amour, et on se retrouve bientôt. Allez, des bezos, mes cailles.
Bah.
Bizarre.
Oh. Et vous?